son receveur, touché, rouge et or.
La saison 2023 du Rouge et Or, ça se passe sur les ondes de Chiz 94.3. Les champions en titre de la Coupe Vanier entament leur saison à Sherbrooke pour y affronter le Vert et Or ce vendredi 25 août dès 19h. Ne manquez pas l'avant-match à 18h30 où Pascal Loubier et Victor Marchand mettront la table pour la prochaine saison. Rouge et Or, Vert et Or, ce vendredi 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire cette semaine, un musicien lance sa collection de vêtements faite à l'os, des t-shirts avec des slogans en français.
J'espère un jour que ça va aider deux franco-ontariens qui se parlent en anglais un peu tout croche. Là, tu réalises, puis là, tu parles en français, puis là, on dirait que tu parles plus longtemps parce qu'ils parlent en français. Pis c'est comme porter une certaine couleur, justement, puis d'afficher qu'on est francophone, mais avec le squelette et tout. Là.
Une exposition d'œuvres en carton fait mouche sur la côte nord au Québec.
Ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qui est ici, c'est finalement sublimé des déchets. Parce que tous ces cartons-là, ils étaient prêts pour aller à la poubelle.
Une chercheuse ontarienne estime qu'il est temps de dépoussiérer les techniques pédagogiques d'enseignement du français langue seconde.
On habite dans un pays d'immigration. L'âge ou les effets biologiques, c'est pas le seul facteur qui influence notre acquisition de la langue. C'est notre environnement linguistique.
Immigration francophone Nouvelle-Écosse veut séduire les nouveaux arrivants du Cap-Breton et leur propose des services personnalisés. Et la saison de la pêche au homard est lancée dans les maritimes, mais avec quelques jours de retard.
C'est toujours une question de sécurité. On a eu des accidents dans le passé à la première journée de pêche. Donc, on veut absolument éviter de lancer des pêcheurs dans une situation qui pourrait potentiellement être dangereuse.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Bonjour et merci d'être avec nous. On lance l'émission dans la grande région d'Ottawa où nous attend Marie Hillès, qui est allée à la rencontre de l'auteur-compositeur-interprète Marc-Antoine Joly, non pas pour parler musique, étrangement, mais d'une nouvelle ligne de vêtements qu'il lance et qu'il a nommée « Faite à l'os ». Ce franco-ontarien rêve depuis qu'il est tout jeune de fabriquer des t-shirts d'été arborant des expressions francophones familières comme « Fabo facho », »,« Une petite frette »,« Ben relax ». Le nom d'ailleurs « Faite à l'os » est un hommage à sa grand-mère qui utilisait souvent cette expression qui signifie « avoir trop bu » ou « être cuit ». Marc-Antoine Joly estime que son projet permet aux francophones et francophiles, on s'imagine, de se reconnaître un peu dans la rue. Marie Hillès est en compagnie de Marc-Antoine Joly.
Marc-Antoine Joly, connu sous son projet musical Joly, lance une ligne de vêtements nommée « Faite à l'os ». Des t-shirts avec des expressions francophones pour l'été, comme « Fabo facho »,« Une petite frette » et « Ben relax ». L'auteur, compositeur, interprète réalise un projet d'enfance.
Depuis que je suis jeune, je pense à faire ça. En fait, ça fait vraiment longtemps. Puis j'ai toujours une certaine admiration pour la culture du skate, puis la culture punk, puis tout ça. Puis depuis que je suis jeune, on dirait qu'on s'affiche avec nos couleurs, nos vêtements et tout. Puis je voulais que justement les Franco aient quelque chose d'autre que tu sais, le drapeau franco-ontarien, c'est super, mais je pense qu'on devrait être capable de pouvoir se représenter de d'autres façons. Puis dans ma tête, ben avec ce petit projet là, c'est une façon de pouvoir faire ça, puis sans enlever rien au drapeau, bien évidemment, mais plutôt juste une autre façon de pouvoir s'afficher, puis de pouvoir porter quelque chose qui parle en français, tu sais, parce que souvent on met un chandail, c'est souvent écrit en anglais, tu sais, c'est très rare que c'est écrit en français, puis j'étais comme, mais pourquoi? Donc, j'avais le goût de changer ça, justement, de mon côté.
Et le nom vient d'où?
Ben, le nom vient, en fait, ma grand-mère, elle disait souvent ça, ah, lui, il est fait à l'os, ou ah, ça, c'est fait à l'os, en voulant dire que c'est terminé, c'est fini, ah, il est dans le chute, tu sais. puis je trouvais ça drôle, puis tu sais, évidemment, vu que mes personnages sont des squelettes sur les t-shirts, justement, ben, ça faisait en sorte que ça faisait bien du sens, puis c'est une expression familière aussi, fait à l'os, c'est pas une expression que tout le monde utilise non plus, fait que je trouvais qu'il y avait un beau petit clin d'œil à ma grand-mère, et puis tout ça avec ça.
C'est un concept unique.
Il y a pas vraiment ça ailleurs, puis surtout pas en français avec justement ce petit côté-là, un petit peu plus punk si on veut, avec les squelettes et tout ça. Donc C'était vraiment, pour moi, une façon... Moi, j'avais de la misère à commencer à trouver des t-shirts qui étaient pas juste noirs avec rien dessus. Donc, je voulais avoir quelque chose. Puis c'est ça, fait que là, je voulais juste un chandail, que la coupe était belle. Puis ça, c'est une des choses qu'on se fait dire, c'est que les chandails, il fait bien à tout le monde. La façon qu'il est fait, il est très doux aussi, fait que ça respire bien. Puis pour moi, c'est important d'être bien dans notre peau. Puis j'avais le goût de moi être bien dans ma peau. Puis je me suis dit, je suis pas mal sûr qu'il y a d'autres mondes qui vont vouloir être bien dans leur peau, puis que ça soit écrit en français, puis que ça soit quelque chose qui les représente aussi.
Au fil des années, c'est devenu important pour Marc-Antoine de revendiquer la francophonie et de l'afficher. Il explique cette appartenance avec ses vêtements.
C'est un peu une façon, j'espère un jour que ça va aider deux franco-ontariens qui se parlent en anglais un peu tout croche. Là, tu réalises, puis là, tu parles en français, puis là, on dirait que tu parles plus longtemps parce qu'ils parlent en français, puis là, ça devient volubile, l'histoire. Je me dis, si ça peut aider ça un petit peu, tant mieux. En même temps, ça se limite pas aux francophones. Tu sais, un anglophone peut porter ça, comme que nous, on porte des chandails qui est écrit en anglais. Fait que je pense qu'il y a des gens, puis après ça, quand ils comprennent l'expression ou ils la voient ou peu importe, eux autres trouvent ça beau parce que soit que c'est des francophiles ou peu importe. Fait que je pense que tout ça qui vient faire partie de l'histoire puis de l'organisation, tout ça, puis vraiment c'est comme porter une certaine couleur, justement, puis d'afficher qu'on est francophone, mais avec un petit côté un petit peu plus avec le squelette et tout là, tu sais. Fait que
c'est lui-même qui a fait le design et les t-shirts sont imprimés à Hawkesbury par un ami d'enfance. Selon lui, c'est une façon de soutenir la communauté et les petites entreprises franco-ontariennes. C'était une entrevue de Marie Hillès dans le cadre du programme IJL.
On reste dans les arts, mais on quitte l'Ontario pour se rendre au Centre archéo-topo des Bergeronnes en Côte-Nord, au Québec, pour vous parler donc du vernissage d'une expo, non pas de trésors archéologiques, mais d'une série d'œuvres faites de carton. L'artiste Carmita Rodriguez a lancé son expo « Design tout en carton », une matière surprenante dont la solidité étonne parfois. Certaines des œuvres présentées donc au Centre archéo-topo ont même été utilisées dans la scénographie de pièces de théâtre du dramaturge québécois Michel Tremblay, notamment dans sa pièce « Les belles-sœurs ». Les commentaires de Carmitas Rodriguez au micro de Maxime Jaudoin.
Ici, dans l'espace de l'exposition « Design tout en carton », les gens vont pouvoir apprécier les différentes formes, façons de travailler le carton. Il y a 4 techniques de travail de carton. Donc, il y a des tabourets. Les gens peuvent s'asseoir et en général, ils sont surpris de voir la solidité. Ça ne bouge pas. C'est confortable. Il y a une autre technique. Il y a une table qui est aussi solide qu'une table en bois. Donc, c'est ça qu'ils vont pouvoir apprécier, voir les différentes techniques puis les différentes formes que l'on peut donner au carton. Ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qui est ici, c'est finalement sublimé des déchets. Parce que tous ces cartons-là, ils étaient prêts pour aller à la poubelle. Il y a quand même ici 4 ou 5 œuvres qui ont fait partie du décor de la pièce « Les belles-sœurs » de Michel Tremblay, qui a été présentée à un guichet fermé à Passepébiac en Gaspésie, avec une mise en scène de Wilfried Joseph. Donc vous voyez, et les 14 comédiennes vivaient sur scène avec des meubles en carton. Il y avait même une cuisine qui n'est pas ici, là, mais des armoires de cuisine, robinets, tout en carton. Donc selon la forme du mobilier, on va utiliser une technique plutôt qu'une autre pour atteindre la solidité. Mais moi, j'avoue que je suis très fière aussi de ma sculpture qui est là-bas, qui, elle, n'est pas du tout... On ne montre pas la solidité, on montre la transparence. Mmh. Et on peut aussi être très surpris de voir que même avec le carton, on peut faire des lignes arrondies et transparentes, légères. Je trouve ça intéressant. J'ai découvert en fait le travail du carton pendant que je faisais ma formation en design à Rimouski. Et là, pendant mes études, j'ai fait la connaissance du travail d'un architecte canadien qui s'appelle Franck Guéry. Et je me suis rendu compte, j'ai trouvé ça intéressant, qu'en dans les années 70, il avait déjà lancé deux collections de mobilier. J'ai été intéressée de voir comment, en 1970, alors qu'on ne parlait pas d'écologie, lui, il était déjà intéressé à lancer une collection de meubles en carton. On est quand même dans une société de consommation où on change de mobilier très souvent. Alors pourquoi pas du carton plutôt que de changer, payer une fortune des meubles qu'on change au bout de 5 ans?
L'exposition Design tout en carton est à l'affiche jusqu'au 4 septembre prochain. C'était Maxime Jaudoin dans le cadre de l'initiative de journalisme local.
On revient en Ontario parler avec la chercheuse universitaire Alia Alatassi, qui avoue avoir de la difficulté à recruter des volontaires pour participer à sa recherche sur l'acquisition du français en tant que langue seconde. Ceci dans le cadre du mémoire sur lequel elle planche à l'Université de Toronto. Alors que son calendrier de travail se resserre, elle cherche toujours à recruter des élèves et leurs parents par tous les moyens. Elle fait face, dit-elle, à une certaine résistance de la part du milieu académique. C'est que la chercheuse est persuadée qu'apprendre le français après l'âge de maturation d'une langue pour un enfant non francophone n'est pas aussi compliqué que les théories et paradigmes pédagogiques des années 70 le prétendent. Grâce à une enquête menée auprès de plusieurs dizaines d'enfants de Toronto, Mme Alatassi affine ses hypothèses et souhaite par le fait même contribuer à améliorer les techniques d'apprentissage en vigueur dans les établissements scolaires. Marine Autogali a rencontré la chercheuse Alia Alatassi.
Alia Alatassi est chercheuse en linguistique à l'Université de Toronto. Son sujet de thèse plonge au cœur des méthodes d'apprentissage du français pour les jeunes enfants dans un environnement minoritaire comme ici à Toronto.
La motivation principale de mon projet de thèse, c'est en fait le manque des recherches sur les enfants qui apprennent le français à partir de l'âge de 6 ans, parce que la recherche dit qu'il y a une période où en fait, l'acquisition surtout la morphosyntaxe comme langue seconde en français, ça commence à être affecté négativement si les enfants commencent à apprendre le français à partir de 6 ans. Alors, ils ne seront pas de même capacité comparativement aux enfants qui apprennent le français à l'âge de 4 à 5 ans, c'est-à-dire au niveau de maternelle. Alors, on a besoin dans la recherche d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe, surtout si ces enfants ils sont en train d'apprendre le français dans un environnement où le français n'est pas une langue dominante, comme l'Ontario par exemple.
Les défis qu'elle a rencontrés se sont surtout concentrés à la recherche des candidats et des volontaires.
J'ai beaucoup de difficultés à avoir cette catégorie. Moi, j'ai recruté des enfants qui ont commencé leur éducation dans une école francophone, mais à partir de l'âge de 4 et 5 ans, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas francophones, mais qui ont commencé à l'âge de 4-5 ans dans une école francophone. Je voulais les comparer avec ceux qui sont dans le même environnement, mais à l'âge de 6 ans, et ceux qui ont débuté leur acquisition dans un environnement 50% francophone, c'est-à-dire les écoles d'immersion. J'ai pas de problème à recruter les enfants en immersion et les enfants qui ont débuté comme les apprenants précoces. Mais j'ai beaucoup de difficultés à trouver les étudiants qui ont commencé tardivement dans les écoles francophones.
Alia Alatassi explique que les écoles sont méfiantes, que ce soit face à la chercheuse ou à son sujet d'étude. Elle ressent un manque de confiance de la part des conseils scolaires.
Moi, par exemple, mon étude, il a été approuvé par le comité d'éthique à l'Université de Toronto, c'est-à-dire que je suis vraiment engagée à protéger la confidentialité, les identités des étudiants. Les écoles ne veulent pas aider du tout, ils ne veulent pas passer la formation.
Elle avait commencé à recruter au mois de janvier 2023 pour les différents groupes de son étude. Mais malgré tout, malgré la notoriété de l'Université de Toronto, malgré un comité d'éthique passé, Les directeurs des établissements refusent de transmettre sa requête auprès des parents et des élèves.
Jusqu'à date, j'ai recruté à peu près 45. J'ai recruté un peu des étudiants francophones, c'est-à-dire 100% francophones avec des parents francophones, un groupe en immersion et un groupe en école francophone qui ont commencé en maternelle. Maintenant, il me reste juste le groupe qui commence tardivement dans une école francophone. Il me reste juste 8 étudiants et j'arrive pas à trouver ces étudiants. Et
Alia doit terminer sa thèse en décembre et l'absence de ce groupe diminue l'impact de son étude très poussée sur les facultés d'apprentissage de la langue. Le profil qui lui manque est très précis.
Le minimum 2 ans de scolarisation en français, c'est-à-dire normalement, s'ils ont commencé à l'âge de 6-7 ans, maintenant ils doivent avoir entre 9 et 13 ans. J'ai trouvé 4, mais il m'en reste... Bon, idéalement, j'aurais besoin de 15.
Si elle n'en trouve que 8, ce sera déjà suffisant, dit-elle, pour s'équilibrer avec les autres groupes qu'elle a déjà et permettra de donner des résultats significatifs. Jusqu'à présent, elle a pu recruter grâce aux parents ou aux groupes sur Facebook. Mais elle s'est entendue dire, par ses parents avec lesquels elle travaille déjà, que son dernier groupe sera compliqué, voire impossible à recruter. Car les parents mettent leurs enfants très tôt dans un apprentissage de français langue seconde et rares sont ceux qui commencent plus tard.
Et puis, il y a très peu de... C'est-à-dire les immigrants, par exemple. Il y a des immigrants qui arrivent d'autres pays. Par exemple, les gens qui arrivent de l'Ukraine, des réfugiés. Oui, ça arrive, mais ils sont une minorité, je pense. Mais c'est juste qu'il faut trouver... Je pense pas que c'est impossible de trouver 8 étudiants dans la grande région de Toronto qui ont commencé. Ce sera soit commission scolaire Vie à Monde, soit scolarisation Mon Avenir, c'est-à-dire le conseil catholique, soit les écoles privées, c'est-à-dire lycée français, TFS, la Citadelle, ou tout ça, mais il n'y a personne. J'ai envoyé des courriels à toutes ces écoles. J'ai pas eu de retour du tout.
Au-delà des obstacles liés à la difficulté de recrutement, l'intérêt lui est arrivé par la théorie. Une théorie qu'elle a cherché à récuser au vu de son parcours personnel, où elle a appris la langue française tardivement, et de la réalité de l'environnement canadien, où elle a pu observer un apprentissage de la langue à n'importe quel âge.
Il y a une théorie dans les années 70, on appelle ça comme l'effet de l'âge sur l'acquisition de la langue seconde. Ils disent qu'il y a des... En fait, l'âge a un effet négatif sur l'acquisition de la langue seconde. Et il sera jamais possible pour quelqu'un qui apprenne la langue après la maturation d'apprendre la langue d'une façon comparable à un locuteur natif. Et moi, comme quelqu'un qui est immigrante, qui a appris le français tardivement, très tardivement, je trouve que c'est très... En fait, il faut se méfier de ce genre de théorie parce qu'on habite dans un pays d'immigration. Et aussi, deuxième raison, c'est que parce que l'âge ou les effets biologiques, c'est pas le seul facteur qui influence notre acquisition de la langue. C'est notre environnement linguistique. Alors, c'est la richesse de l'environnement. Il y a la qualité de l'input et la quantité d'input.
La qualité de l'input, c'est par exemple si le locuteur qui nous apprend la langue est lui-même natif ou non de cette langue. Et puis, Alia s'est intéressée aux écoles francophones. Car elles sont considérées comme un équivalent 100% input, explique la chercheuse. Tandis que les écoles d'immersion sont considérées comme 50% d'input.
Il faut vraiment comparer comment cet environnement linguistique ça va affecter l'acquisition de la langue.
Elle s'inscrit dans le cadre du département de linguistique française de l'Université de Toronto et s'intéresse à la morphosyntaxe, ce qui est assez rare, tout comme la recherche dans l'acquisition en général.
À UFT, il y a très peu, en fait, il faut dire que la majorité des étudiants s'intéressent à la littérature, ne s'intéressent pas beaucoup à l'acquisition de la langue.
L'objectif général de sa recherche, c'est de repenser les théories d'acquisition de la langue française en tant que langue seconde.
Mais l'objectif principal, c'est surtout comprendre comment les enfants qui habitent dans un environnement non francophone et qui commence l'acquisition de français dans une école francophone, c'est quelle étape d'acquisition ils vont poursuivre. Parce qu'on a très peu d'informations sur leur étape d'acquisition comparativement aux enfants qui commencent, par exemple, à l'âge de 3 à 4 ans. On a très peu d'informations sur les enfants qui commencent à l'âge de 6 ans.
Il n'y a presque pas de recherche là-dessus, insiste-t-elle. Son étude concerne la langue française en priorité, car nous ne mobilisons pas les mêmes connaissances au moment de l'apprentissage qui se reposent sur nos acquis, ce que l'on a au moment où on apprend.
L'idée principale, c'est de comprendre est-ce que l'enfant va utiliser sa grammaire universelle, c'est-à-dire sa capacité innée d'acquisition de la langue, ce que les enfants utilisent lorsqu'ils vont apprendre la langue maternelle, ou est-ce qu'ils vont dépendre sur la première langue, qui est l'anglais, pour essayer d'apprendre le français. La morphosyntaxe en français, c'est très riche comparativement en anglais. Il faut vraiment comprendre si ceci va poser un défi pour les enfants anglophones ou non.
Jusqu'à présent, les théories expliquent que les enfants non francophones qui ont commencé à apprendre le français à 3 ou 4 ans ne présentent aucune difficulté et sont comparables aux enfants francophones. Ils vont donc utiliser la même méthode d'apprentissage.
Mais maintenant, si les enfants commencent à l'âge de 6 ans, il y a forte possibilité qu'ils vont utiliser l'anglais. Et à ce moment-là, s'ils utilisent l'anglais pour apprendre le français, il faut changer les méthodes d'apprentissage dans les écoles.
Le travail de recherche de Alia Alatassi permettrait d'améliorer les méthodes d'apprentissage pour ce qui reste l'une des langues officielles du Canada.
Je pense personnellement, comme quelqu'un qui enseigne le français aux adultes à l'université comme langue seconde, je trouve qu'il faut vraiment, si ton étudiant, si, par exemple, sa première langue, c'est l'anglais, il faut vraiment utiliser l'anglais pour expliquer les phénomènes en français. Tu ne peux pas enseigner le français de la même manière aux adultes qui n'ont pas le français comme première langue.
Sa difficulté à recruter les derniers candidats pour son étude reste le principal défi à relever et elle doit le faire dans les prochaines semaines. Elle s'efforce de contacter tous les établissements et institutions susceptibles de l'aider. Et au-delà de ça, le programme de cette doctorante de l'Université de Toronto reste chargé entre conférences et publications à préparer d'ici la fin de l'année. Bonjour à toutes et à tous, ici Marine de Toronto en Ontario et vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLVI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Les recherches menées par Alia Alatassi pourraient, qui sait, à terme contribuer à une meilleure intégration linguistique des nouveaux arrivants francophones au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, et aux efforts que mène Immigration francophone Nouvelle-Écosse pour faciliter leur établissement dans la province et la région. Immigration francophone Nouvelle-Écosse qui leur propose des services adaptés à leurs besoins. Carole Brown est la première conseillère d'établissement d'Immigration francophone Nouvelle-Écosse pour la région du Cap-Breton et aussi pour la communauté de Pomquette. Ces nouveaux Canadiens lui sont recommandés, entre autres par les écoles francophones et Développement économique Cap-Breton Partnership. Madame Brown prépare ensuite avec eux un plan d'action personnalisé pour les aider à s'installer. Le Nouveau-Brunswick qui travaille à accroître et à retenir un plus grand nombre de nouveaux arrivants d'expression française. De Chétican, le reportage de Daniel Aucoin.
Grâce à la création de nouveaux postes, Immigration francophone Nouvelle-Écosse souhaite faciliter le processus d'établissement des nouveaux arrivants francophones qui veulent faire du Cap-Breton leur nouveau chez-soi. Basée à Sydney, Carol Brown travaille à améliorer l'intégration des nouveaux arrivants francophones dans le nord-est de la province. Aujourd'hui, l'un des défis pour les francophones qui souhaitent s'établir au Cap-Breton est de trouver les ressources dont ils ont besoin pour s'installer dans la communauté. Carol Brown nous explique les différents services offerts aux nouveaux immigrants francophones après leur arrivée au Cap-Breton.
Nos services après l'arrivée comprenant l'intégration et en personne et la connaissance de la communauté, ainsi que l'inscription scolaire. Ces services sont offerts aux résidents temporaires, aux résidents permanents, aux citoyens canadiens nés à l'étranger, aux réfugiés et aux étudiants. Nous offrons aussi des ateliers dans les domaines de la santé, de l'éducation, du logement, de la citoyenne et d'autres encore.
La conseillère souligne que beaucoup d'immigrants francophones au Cap-Breton ne savent pas que des gens dans le secteur des services en établissement sont disponibles pour les aider. Madame Brown indique que les services offerts aux nouveaux arrivants par Immigration francophone Nouvelle-Écosse sont très appréciés.
Oui, c'est très apprécié parce que eux, quand les immigrants arrivent, ils ne connaissent pas le Canada, ils ne connaissent pas l'endroit. Alors, ça les aide à s'établir et à s'accueillir dans la région. Et aussi, ça donne une connaissance à d'autres personnes qui parlent français et ils peuvent participer à des activités. Ils ne se sentent pas seuls avec nous ici.
La conseillère d'établissement des migrations francophones Nouvelle-Écosse pour la région du Cap-Breton a également la tâche de faire connaître son travail auprès des partenaires dans les communautés comme Sydney, Chétican, Île-Madame et Pumpkin, et ce, pour partager des informations d'immigration francophone Nouvelle-Écosse à travers le réseau. Rappelant qu'immigration francophone Nouvelle-Écosse travaille toujours à accroître le nombre de nouveaux arrivants francophones qui s'établissent dans cette province et à les retenir ici.
Bonjour, ici Julie Lesalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Restons dans l'est du pays où la saison de la pêche au homard vient d'être lancée dans les maritimes. Les homardiers ont quitté leur port d'attache le dimanche 13 août dernier. Après quelques jours de retard en raison du mauvais temps, l'Union des pêcheurs des maritimes voulait s'assurer de la sécurité des homardiers de la région. Luc Leblanc, conseiller aux pêches à l'Union des pêcheurs des maritimes, est ici au micro de Mathieu Landry.
Les vaisseaux, quand ils sortent chargés avec 250 casiers, ils sont vraiment particulièrement vulnérables aux conditions maritimes. C'est-à-dire qu'on cherche une journée où les conditions sont optimales, encore plus que le reste de la saison. C'est toujours une question de sécurité. Là, on a eu des accidents dans le passé à la première journée de pêche, donc on veut absolument éviter de lancer les pêcheurs dans une situation qui pourrait potentiellement être dangereuse. Donc on regarde des choses comme l'intensité du vent, la houle, la direction du vent, etc. Ces conditions-là n'étaient tout simplement pas au rendez-vous depuis mercredi. Là, donc... C'est dimanche qui semble être notre première fenêtre d'opportunité. C'est sûr que la pression financière commençait à augmenter, surtout quand on conjugue avec la saison difficile au niveau financier qu'on a connu l'année passée. Mais il n'y a pas de pêcheur qui veut sortir, mettre sa vie à risque pour payer des factures quand même. Là. Au bout du compte, il faut rester en sécurité parce que si on n'est pas en sécurité par exemple, le vaisseau coule, c'est pas mal difficile de faire de l'argent pour le reste de la saison sans bateau. Hein. Mmh. Fait que, il y a de la frustration, c'est sûr, mais tout le monde au bout du compte est compréhensif par rapport à ça.
Les quatre jours de pêche perdus ont heureusement été reportés, la saison ayant été tirée dans les maritimes par le ministère fédéral des Pêches et Océans Canada. Voilà qui conclut cette 81e édition de l'émission Point de vue, produite par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Nos journalistes cette semaine, Marine Autogali, Marie Hillès, Daniel Aucoin, Mathieu Landry et Maxime Jaudoin. Merci à eux et à Stéphane Bénard, notre coordonnateur national. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation, qui vous souhaite de bien profiter de votre été. On salue tous les Canadiens et Canadiennes dont l'été a été amputé en raison des feux de forêt actuels et passés. Merci de nous avoir tous tenus compagnie. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. Et à la semaine prochaine. Ciao!
Sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chétiquan, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Hey Flo!
Ouais, Tom!
Recycle Prog revient pour une nouvelle saison.
Recycle Prog, c'est une émission remplie d'invités qui te propose une super sélection de chansons rock progressives à découvrir et redécouvrir.
Fait que si t'as envie de revenir à l'époque où les solos de guitare étaient aussi longs que ta prochaine date, ça se passe un mardi sur deux de 19h30 à 20h30.
À Chiz 94.3.
Vous écoutez maintenant LSDJ 7, présenté par Lex. Explorons